Si les voix du monde, celles qui vous parlent jour après jour en temps universel, cette voix, c'est celle de Chantal Leroux qui vient de vous présenter ce journal. Edmond Salaka, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Voici votre journal des Amériques, dont voici le sommet. Bon journal, Edmond.
À la une, aujourd'hui, un grand sujet, évidemment, la normalisation marche entre Washington et La Havane. Quelles répercussions sur les autres pays du continent américain, notamment sur les pays de la gauche latino-américaine. Pour en parler, notre invitée sera dans quelques minutes la sociologue et anthropologue Paula Vasquez, spécialiste de l'Amérique latine. Quel impact également pourrait avoir ce rapprochement historique sur Haïti? On en parlera avec France Duval, rédacteur en chef du quotidien francophone Le Nouvelliste. La revue de la presse des Amériques, ce sera en votre compagnie, Véronique Guémard, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Revue de presse en grande partie consacrée à ce sujet également, mais aussi à un événement important, un petit peu éclipsé par cette nouvelle des relations Cuba-États-Unis. Je veux parler de la Colombie, puisque les FARC ont annoncé hier soir un cessez-le-feu unilatéral sans limitation de durée. Et puis notre rendez-vous quotidien avec nos amis du journal d'Outre-mer Première, ce sera à la fin de cette édition. Le monde entier, et notamment les dirigeants d'Amérique latine, réunis pour le 47e sommet du Mercosur en Argentine, saluent unanimement l'annonce d'un rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Même le Venezuela, adversaire numéro un des États-Unis dans la région, qualifie le geste de Barack Obama de courageux et de nécessaire. Le président américain, qui a indiqué notamment avoir demandé au secrétaire d'État John Kerry d'engager immédiatement des discussions avec Cuba sur le rétablissement des relations diplomatiques interrompues en janvier 1961. Écoutez d'abord à ce sujet la politologue Jeannette Abel, enseignante à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, jointe par Véronique Guémard.
Les relations diplomatiques veulent dire d'abord qu'il va y avoir des voyages des Cubano-Américains et des Américains à Cuba même, que Cuba va participer au sommet des Amériques qui va avoir lieu au Panama au mois d'avril 2015, ce qui est très très important parce que les gouvernants latino-américains, conservateurs ou pas, avaient mis en balance leur présence à ce sommet qui réunit les États-Unis et toute l'Amérique latine, disant que si Cuba n'y participait pas, ils ne viendraient pas. C'est extrêmement important. Donc ça n'est pas par hasard que tout ça arrive maintenant. La portée est considérable pour l'Amérique latine, pour Cuba, et même pour les États-Unis, c'est quand même de la part d'Obama un geste fort qu'il faut comprendre aussi comme la volonté de marquer sa présidence qui est difficile par un geste qui rentrera dans l'histoire.
C'était donc la politologue Jeannette Abel, enseignante à l'Institut des hautes études d'Amérique latine.
Revue de presse des Amériques.
Une revue de presse dominée donc par ces derniers événements, ces relations entre Cuba et les États-Unis, relations gelées depuis plus d'un demi-siècle, Véronique Guémard.
Oui, le New York Times qui publie régulièrement des éditoriaux ces dernières semaines en faveur d'une nécessaire levée de l'embargo, titre sur l'avancée historique d'Obama sur les relations avec Cuba, un éditorial à consulter d'ailleurs en deux langues, en anglais et aussi en espagnol. La décision de l'administration américaine de restaurer cette relation diplomatique, de faire en sorte de retirer Cuba de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, de lever les restrictions de voyage et de commerce, constitue un changement qui a été largement soutenu dans nos pages, rappelle l'éditorialiste du New York Times. Les États-Unis ont bien fait de faire pression pour exiger des libertés individuelles et un changement démocratique à Cuba, mais son approche punitive a été totalement contre-productive, écrit-il. Nous devons parler du présent et du futur, avait confié Raúl Castro au parlementaire américain Jim McGovern, rapporte Politico, qui, lui, révèle les dessous des discussions secrètes qui se sont déroulées donc depuis 18 mois. Le Miami Herald publie un document interactif sur les relations entre Cuba et les États-Unis depuis la révolution cubaine de 1959.
Alors, autre nouvelle sur le continent qui concerne un conflit qui date lui aussi de plus de 50 ans, c'est l'annonce d'un cessez-le-feu, on le disait il y a quelques minutes, d'un cessez-le-feu des FARC en Colombie.
Oui, le chef des négociateurs pour le gouvernement colombien, Humberto de la Calle, a appelé à l'accélération des discussions de paix pour l'année 2015. Le processus doit entamer sa dernière ligne droite, rappelle Semana. Et c'est dans ce contexte que les FARC ont annoncé hier, dans un communiqué, un cessez-le-feu unilatéral et pour une durée donc indéterminée à compter de samedi, que les FARC appellent à transformer en armistice. Mais on n'en est pas encore là. C'est une annonce que le gouvernement colombien a saluée, bien sûr, mais il refuse les conditions de sa vérification. Nous commencerons à en discuter lorsque nous aurons commencé la discussion du point 3 sur la fin du conflit, a répondu le président Santos dans un communiqué repris par El Tiempo.
Alors, en attendant cette étape du cessez-le-feu à La Havane, puisque ces discussions intercolombiennes se déroulent à La Havane, les Cubains ont laissé éclater leur joie à l'annonce de Raúl Castro sur leur rapprochement avec les États-Unis.
Oui, le journal officiel Granma fait une large place au discours de Raúl Castro, qu'il publie intégralement en soulignant cette phrase « Nous devons apprendre l'art de cohabiter de façon civilisée dans le respect de nos différences ». Les trois Cubains détenus depuis 16 ans aux États-Unis ont été accueillis en héros à La Havane. Joie, émotion, euphorie, pleurs, optimisme, attente, surprise, cite Granma. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire ce que vit Cuba. Plus de 50 ans ont passé depuis la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis et l'instauration d'un blocus économique injuste, souligne le journal. Un Cubain cité dans Granma fait d'ailleurs part de sa joie, mais sur le rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis, on doit attendre de voir ce qui va se passer et si les conditions de ce rétablissement seront évidemment équitables.
Et puis on l'a appris dès hier soir, hein, le pape, le Vatican et le Canada ont joué un rôle clé dans ce rapprochement entre La Havane et Washington.
Oui, pour l'éditorialiste de Folie et San Paolo, en moins de 2 ans, le pape François a produit son premier miracle, jouer les intermédiaires pour le rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. Même le Vénézuélien Nicolas Maduro a exprimé la joie du peuple vénézuélien face à ce qu'il a appelé une rectification historique. Il était temps, titre tal quel. La décision de Barack Obama de rétablir les relations avec Cuba est la meilleure nouvelle de cette fin d'année. Et le devoir de souligner, si Barack Obama et Raúl Castro ont pris la peine de remercier le Canada, c'est que le pays a accueilli les pourparlers qui ont mené à cette réconciliation historique, a confirmé Stephen Harper. Des réunions secrètes qui se sont donc déroulées sur le sol canadien depuis 18 mois.
Alors cette annonce fait grincer des dents aux États-Unis, notamment chez les anticastristes et les républicains.
Oui, pour l'écrivain cubain Vicente Echeverri, qui publie un article dans le Nuevo Herald de Miami intitulé « La liberté non négociable », le 17 décembre est une date maudite, un jour de deuil. « Nous ne vendrons pas notre liberté pour laquelle nos grands fondateurs ont donné leur sang », conclut-il. En tout cas, selon le journal argentin, La Nation, 25 ans après le début de son effondrement, le mur de Berlin a terminé sa chute hier à Cuba. Et de poursuivre, c'est le virage le plus important que le régime des Castro ait donné en direction d'une libéralisation de l'économie cubaine qui coïncide avec la crise de son grand allié, le chavisme, au Venezuela, victime de la chute des prix du pétrole.
La revue de la presse des Amériques, c'était Véronique Guémard.
La chronique des Amériques.
Et on va continuer à parler de cette normalisation des relations entre Washington et La Havane. Aura-t-elle des répercussions sur les autres pays du continent américain? Oui, estiment de nombreux chercheurs, notamment sur les pays de la gauche latino-américaine liés par un anti-américanisme virulent. La plus touchée de ces nations, eh bien, ce sera sans doute le Venezuela et son gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro. Stéphanie Schuller a interrogé la sociologue et anthropologue Paula Vasquez, chargée de recherche au CNRS. Et spécialiste de l'Amérique latine.
Le président Maduro a salué l'acte d'Obama et Raúl Castro hier, mais on se demande qu'est-ce qui va se passer avec ces relations si fortes, fondamentalement anti-américaines, nouées par le gouvernement vénézuélien et le régime de Fidel Castro. Il y a 18 mois de négociations qui se sont passées, justement ça coïncide avec la crise vénézuélienne. Le Venezuela assure les livraisons de pétrole, plus de 5000 barils de pétrole par jour partent tous les jours à Cuba. Mais est-ce que ça c'est possible avec la descente des prix du pétrole et avec la crise de PDVSA? PDVSA c'est la compagnie nationale de pétrole du Venezuela. Est-ce que cette politique peut continuer? Donc il y a une crise en ce moment au Venezuela très profonde et peut-être Cuba est en train de changer de partenaire économique, est en train d'abandonner le Venezuela d'une certaine manière.
Qu'est-ce que cela signifie du coup pour le gouvernement de Nicolas Maduro?
C'est comme une claque parce que justement ça survient à un moment où il y a une tension extrêmement forte entre les gouvernements vénézuéliens et les gouvernements des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctionnaires du gouvernement vénézuélien qui se sont énormément enrichis et qui ont des comptes aux États-Unis et qui viennent d'être classés.
Des sanctions, je rappelle, qui ont été votées par le Congrès américain la semaine dernière.
Tout à fait. Et il y a aussi la question des visas. Il y a une liste importante de membres du gouvernement vénézuélien auxquels on a retiré les visas et qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Donc la tension entre les États-Unis et les Vénézuéliens est très forte à cause de cette affaire-là. Et maintenant, le discours anti-américain, et on se demande comment il va être recadré avec ce rétablissement des relations avec La Havane.
Du coup, en fait, le gouvernement de Nicolas Maduro se trouve-t-il isolé?
Il y aura une redéfinition à faire. C'est vraiment un saut d'eau froide qui est tombé hier. Je pense que le gouvernement de Nicolas Maduro ne s'attendait pas et les négociations étaient vraiment secrètes. Il faudra voir quelle va être la réaction des autres pays de l'ALBA. L'alliance stratégique créée par Chavez, fondamentalement anti-américaine.
Quelle pourrait être la réaction des autres pays de l'ALBA dont font partie, par exemple, je rappelle, le Nicaragua, la Bolivie, l'Équateur?
La question que je vois là, c'est surtout l'échec de la diplomatie pétrolière créée par Chavez. Il y a un changement par rapport à cette union dessinée et créée par Chavez pour faire face aux États-Unis. Justement, les Vénézuéliens n'est plus capable de maintenir par des pétrodollars et par des livraisons de pétrole cette alliance stratégique. Peut-être il y aura un rapprochement plus important des pays de l'ALBA aux États-Unis, ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est un changement d'alliance géopolitique qui va se passer dans les mois qui suivent.
C'était Paula Vasquez, chargée de recherche au CNRS et spécialiste de l'Amérique latine. Elle répondait à Stéphanie Schuller. Il est 8h21 à Port-au-Prince. Nous partons pour la capitale haïtienne rejoindre France Duval. Comme tous les jeudis à cette même heure, France Duval, rédacteur en chef du quotidien francophone Le Nouvelliste. Bonjour France.
Bonjour.
Alors on va aborder un seul sujet avec vous aujourd'hui, c'est l'incidence que pourrait avoir pour Haïti ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Mais d'abord France Duval, on note que le président Martelly, le président d'Haïti, a fait des confidences au Nouvelliste. Il assure avoir joué un rôle dans le rétablissement de ces relations entre Cuba et les États-Unis.
La question est tombée par hasard. On a demandé au président qu'est-ce qu'il pensait de ce rapprochement et le président a fait des confidences effectivement au Nouvelliste. Le président Michel Martelly a dit qu'Haïti a joué un rôle, un petit rôle, dans le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Il a avoué que lui-même, il a été porteur de messages pour les États-Unis à travers le sénateur Pilou Nelson de Floride et à travers l'ambassadeur des États-Unis en Haïti qui lui ont confié des messages et qu'il a eu à apporter aux autorités cubaines. C'est une surprise pour le Nouvelliste, mais le président a confirmé qu'il a joué un rôle et il a dit qu'il en dira plus un jour dans un ouvrage.
On en saura donc davantage plus tard. Il faut rappeler tout de même que les relations diplomatiques entre Haïti et Cuba, elles, en revanche, ont été rétablies depuis pas mal d'années. C'était il y a presque 20 ans déjà.
Presque 20 ans, en 96, Jean-Bertrand Aristide laissait le pouvoir et à la veille de quitter, à la surprise de tout le monde, il avait annoncé le rétablissement des relations entre Haïti et Cuba, des relations qui avaient été coupées du temps de la dictature des Duvaliers.
Alors, concrètement maintenant, France Duval, qu'est-ce qui pourrait changer dans les prochains mois, dans les relations entre Haïti et Cuba, avec ce rapprochement de La Havane avec les États-Unis?
Cuba est un très grand partenaire de la coopération Sud-Sud avec Haïti. Cuba, c'est une coopération de la santé particulièrement, une coopération très importante. Il y a plusieurs centaines de médecins cubains qui sont déployés sur tout le territoire haïtien. La première question qu'on s'est posée, est-ce qu'ils vont rester si les relations avec les États-Unis sont normalisées? C'est-à-dire si les Cubains peuvent partir, peuvent aller aux États-Unis, peuvent voyager sans problème, est-ce que cette coopération va rester? On se pose la question ici et on croit également que le tourisme va avoir des changements si Cuba s'ouvre aux touristes américains. Haïti qui est en train de se réveiller un peu, qui vient d'avoir 21% d'augmentation du nombre de visiteurs l'an dernier, se demande si le tourisme ne va pas avoir un très grand changement avec cette arrivée de Cuba sur le marché.
Donc un gros concurrent pour le tourisme que pourrait être Cuba?
Un gros concurrent, tout à fait. Et aussi, Haïti va perdre un peu de son commerce, parce qu'Haïti fait un peu de commerce avec Cuba. C'est un commerce informel, mais c'est un commerce important. Chaque Cubain qui laisse Haïti s'en va chez lui avec des ballots et des ballots de marchandises achetées à Port-au-Prince qu'il transporte pour aller à Cuba.
Merci beaucoup France Duval, merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en ligne de Port-au-Prince. Je vous dis à jeudi prochain, excellente journée à vous France.
À bientôt.
Le journal de l'Outre-mer.
Et il est présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Edmond.
À la une de votre journal, les chiffres de la démographie en Guyane qui donnent des sueurs froides, on peut le dire, aux responsables de l'éducation nationale.
Oui, le recteur d'académie Philippe Lacombe a, selon la formule consacrée, tiré la sonnette d'alarme devant la presse guyanaise en début de semaine. Nos chiffres donnent le tournis à tout le monde, a-t-il dit. Ils sont effrayants. Laurent Marot.
En 10 ans, il faut construire 8 lycées, 12 collèges et plus de 500 classes élémentaires pour près d'1 milliard d'euros. D'ici 2020, soit la durée du prochain contrat de plan, il faut mobiliser 450 millions d'euros pour en construire la moitié. Or, l'État apporte seulement 19 millions. Le recteur Philippe Lacombe est très inquiet.
L'avant-projet du contrat de projet, on est en baisse extrêmement importante par rapport au précédent contrat de projet. Donc c'est pas là-dedans qu'on va trouver les solutions à la construction de 6 collèges et 4 lycées. On a de quoi en construire 1 ou 1,5. Donc pour nous, l'équation elle devient, dès le mois de janvier, effectivement, comment on fait ?
30 millions sont mobilisables sur les fonds européens. Reste près de 400 millions d'euros. Trop, beaucoup trop pour les collectivités locales, prévient le recteur, qui appelle à des arbitrages interministériels.
Il nous faut un consensus guyanais qui va plaider pour des réunions interministérielles dans lesquelles le rattrapage de la démographie guyanaise doit être pris en compte spécifiquement.
Un front uni des élus guyanais à Paris pour sortir de l'impasse, ce sera difficile à moins d'un an des élections pour la collectivité unique, a priori plus porteuse de division que d'union.
En Martinique, la grève se poursuit dans les 17 boutiques d'Only, autrement dit Outre-mer Télécom. 17 boutiques fermées depuis lundi. Les commerciaux de l'opérateur téléphonique réclament de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire et surtout la prise en compte d'une insécurité dont ils se disent victimes. Teddy Trim, commercial, est au micro de Guy Etienne.
Les agressions sont quasi quotidiennes. Nous avons des retours du service client avec de mauvaises explications qui renvoient les clients en boutique que nous sommes obligés de gérer avec des esclandres, des agressions verbales et même récemment une agression physique sur l'une de mes collaboratrices qui est en ITT depuis plus de 10 jours maintenant. Donc j'aimerais bien que les gens comprennent que ce que nous faisons, ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas des enfants gâtés, comme j'ai entendu certaines personnes dire. Toutes les boutiques vivent la même situation. Tout ça, ça rejaillit sur nous, des problèmes de santé, du stress en boutique. Et en plus, on est effectivement stressé par la direction au niveau des chiffres, mais ils ne comprennent pas. Ces remontées-là, on les fait régulièrement. Ça fait 9 ans, il y a des soucis, mais pas à ce point-là. C'est vraiment un ras-le-bol, parce que nous avons trop subi jusqu'ici. Nous n'étions pas pris au sérieux. Sauf que là, maintenant, il faudra nous prendre au sérieux.
La direction d'Outre-mer Télécom n'a pas souhaité réagir, comme on dit. En bref, et pour terminer, sachez qu'il y a 2 fois plus d'accouchements prématurés en Guadeloupe que dans l'Hexagone. C'est ce que confirme une étude de l'INSERM dont les résultats viennent d'être publiés. Outre une prédisposition génétique, il existerait également des facteurs liés au mode de vie. On constate également que les femmes exposées au chlordécone auraient des accouchements plus précoces. Bon après-midi, à demain.
Merci, bon après-midi, à demain, Benoît Ferrand. On va se quitter sur un petit peu de musique, comme tous les jours, avec un groupe formé par 3 Colombiens de Bruxelles, rejoint par 2 Belges, un Français, un Vietnamien. C'est le groupe La Chiva Gantiva. On va écouter un extrait de leur dernier album, ça s'appelle Vivo.
Pues aguanta, siempre lo has tenido todo, nunca te faltó el abrigo. Tú eras el más consentido y tu mamá te llamaba el mamoncillo. Ahora tú ya estás más viejo, con mamá ya más pendejo. Y tienes miedo de todo peso, y tienes miedo de todo eso.
Merci d'être resté avec nous sur RFI. Merci à Laurent Philippot qui était aujourd'hui à la réalisation et à la technique.
RFI lance africfoot.rfi.fr, le site de référence du foot africain.
Suivez toute l'actualité des compétitions africaines et des joueurs africains en Europe. Retrouvez aussi des portraits, des entretiens et réécoutez les journaux et émissions de RFI sur le foot africain.
africfoot.rfi.fr, le site du ballon rond africain, à découvrir aussi dès maintenant en version mobile.